Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. Installez-vous confortablement autour de la table ou du foyer. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage un peu comme un poème ou un conte des mille et une nuits. Un voyage d'une richesse incroyable et en même temps intrinsèquement simple et terre à terre. La table est le lieu des cultures et des partages, nous vous la racontons chaque semaine. Et si la table devait devenir un spectacle, je pense qu'on pourrait l'appeler Mezzé. Bonjour Aïda Kanafanizar.
Bonjour.
Vous êtes avec nous aujourd'hui et j'en suis très 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 heureuse, je dois l'avouer, parce que vous êtes anthropologue au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale, vous êtes libanaise, vous êtes une fille de Beyrouth, comme vous m'avez expliqué quand nous avons préparé cette émission, une femme de recherche, 40 ans à découvrir l'autre en étudiant les cultures alimentaires et notamment les cultures de votre pays, le Liban. De vos recherches sont nés tous évoqués ici plusieurs livres, Le Menton et le Mourier notamment, La Mounée également, et puis chez Actes Sud, le grand livre du Mezzé libanais, Anthropologie d'un savoir circulaire. J'ai dit un grand livre parce que c'est un grand livre physiquement, un grand livre très 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 complet, très riche. Le Mezzé libanais, c'est un voyage. Alors je vous propose, Aïda, d'être notre guide pour ce voyage et de nous conduire d'acte en acte, de partager ensemble ce repas comme si vous étiez un petit peu le souffleur de cette pièce de théâtre. Un repas épicurien, dites-vous, une ode au plaisir. Comment on peut comprendre ce mezzé? Qu'est-ce qu'il raconte?
Bonjour et merci de me recevoir. Alors, le mezzé, c'est en fait un fragment d'un repas que j'ai appelé le repas épicurien, parce que épicurien suggère la joie, la bonne humeur, le partage, la convivialité. Ça aussi évoque un art de vivre, c'est-à-dire l'art de vivre, je l'entends comme l'identité, une identité libanaise, une façon d'être, de partager, de faire hommage, de rendre hommage aux traditions, au savoir culinaire des femmes de village, des hommes de village, de la côte, du littoral. C'est aussi célébrer les saisons, mais dans un sens qu'on peut-être on reprendra
bien
ce
sûr,
terme, dans le sens de mausam, c'est-à-dire le moment crucial de production alimentaire d'un produit de terroir. Et donc le repas épicurien a trois paliers. Le mezzé, et puis après le plat principal et le dessert.
Alors je vous propose, Aïda, puisque nous allons nous asseoir à table pour savourer ce mezzé tout au long de cette émission. Déjà, est-ce qu'on pourrait savoir où on se situe, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qu'on voit devant nous?
Alors, nous sommes à la fois à la montagne, dans les villages. Nous sommes à la fois sur le bord de mer des villes, que ce soit Beyrouth, que ce soit Saïda, Tripoli. Nous sommes dans les hautes montagnes du Jerud. J'ai envie de dire que même si le mezzé que j'ai à travailler, c'est un mezzé professionnel de restaurant, de restaurateur, c'est là où on essaye d'avoir vraiment une idée de l'ampleur, de la richesse de la table du mezzé. Mais quand même, on peut aussi de temps en temps faire un mezzé chez soi et dans l'intimité des cuisines du foyer. Et donc, pour répondre à votre question, on est un peu partout. Et c'est le mezzé, vraiment, comme je viens de dire, c'est un art de vivre. Et dans art de vivre, j'entends identité, c'est-à-dire cette volonté de vouloir rendre hommage aux cuisines maternelles, aux cuisines des grands-mères, que les cuisiniers ont repris, que certains retravaillent. Mais la base est cette cuisine riche du foyer, de l'âtre, et que donc, qui vont apparaître sur la table du repas épicurien. Donc, le repas épicurien, comme je viens de dire, c'est d'abord le mezzé, ensuite le plat principal, et après, il y a le dessert. Et alors, si vous voulez qu'on parle un peu plus du mezzé...
Ah, mais on va parler d'abord du mezzé, parce que vous ne m'avez pas décrit encore sur la table qu'est-ce que je peux voir en sachant que ce mezzé s'ouvre à peine. On est dans une ouverture de cette pièce et de ce spectacle. Quelles sont les saveurs? Qu'est-ce que l'on peut voir aujourd'hui sur cette table qui est devant nous?
D'abord, on est accueilli par l'odeur. Quand vous rentrez dans un restaurant Et vous avez projeté de partager un repas épicurien. Vous êtes accueilli par l'odeur, c'est reconnaissable. C'est l'odeur de tout ce qu'on va manger. C'est une odeur vraiment que l'on peut percevoir parfois assez loin, mais qui nous happe à la rentrée d'un restaurant. Aussi, quand on arrive, la table, elle est déjà dressée. Il y a des assiettes, il y a les verres, et puis il y a l'huile d'olive qui est là, qui trône sur la table. Il y a le sel et le poivre, et je reviendrai sur le poivre plus tard. Et donc, quand vous vous installez, vous avez le menu qui est proposé, et le chef, le directeur de salle qui vous dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme spécialité. Alors, parfois, vous pouvez vous en remettre au chef et de lui dire « Faites-moi descendre ce que vous avez et faites-moi descendre le terme
cette
descendre
oui. »
est très intéressant. Il est hautement symbolique de déjà descendre, c'est-à-dire de la cuisine où tout se fabrique, où tout se crée, à la table où vous allez être assise. Et après, de façon un peu plus secondaire, c'est descendre aussi du plateau que le serveur amène et sur laquelle sont déjà disposés une dizaine, une douzaine de petits plats et qui va les mettre, et dans le geste de mettre sur votre table, il les descend. Donc c'est un terme qui est issu du vocabulaire professionnel des restaurateurs. Et donc, la table est déjà dressée.
Et du coup, c'est aussi un premier plaisir des yeux.
Absolument.
Le regard qui va déjà savourer ce mezzé à venir.
Voilà. Et donc, quand vous allez dans un restaurant spécialisé dans les mezzés, vous avez déjà quelque chose qui vous attend. C'est-à-dire, vous avez ce que j'ai appelé le jardin potager. Il est au cœur, il est au centre de la table. Et qu'est-ce que c'est? C'est Jatul Khodra. Jatul Khodra veut dire vraiment le plat des verdures, des légumes et des salades. Et il est tout en couleur. C'est lui qui donne le la. Il y a le panache qui déjà s'exprime, ne fût-ce que par ce jardin potager qui vous accueille à l'arrivée.
C'est par la diversité et la fraîcheur des végétaux qu'on va retrouver sur la table.
Absolument. Et ce jardin potager, il reste là tout au long, au fond, du repas épicurien jusqu'à l'arrivée des desserts. Donc, il est là même au deuxième palier, le plat principal. Parce qu'il y a justement, il y a des tomates, il y a des oignons, il y a des radis, il y a des poivrons, etc. Donc, quand vous arrivez, votre œil est happé par ce jardin potager. Et après, petit à petit, la table va se remplir selon les désirs des convives. Et on dit qu'il ne doit pas y rester une place vide sur la nappe.
Extraordinaire en fait, c'est quand on découvre tout cet ordonnancement, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'en fait tout est extrêmement hiérarchisé, tout est pensé, réfléchi, imaginé, que chaque plat, que chaque moment de ce repas est tellement pensé qu'on va réfléchir également à la température à laquelle il est servi, et c'est noté, c'est écrit, c'est expliqué pourquoi est-ce que par exemple cette ouverture on sera plutôt dans la fraîcheur et un peu dans la tiédeur, alors qu'on va avancer au fur et à mesure en chaleur. Et tout cela, qu'est-ce que ça révèle de outre évidemment cette identité culinaire, qu'est-ce que ça révèle?
Justement, peut-être il faudrait que je dise que le mezzé, c'est la grande phrase du repas épicurien. C'est là où on passe le plus de temps. Et donc, que contient ce mezzé? Avant de parler justement, pour parler de des températures et des saveurs, qui vont le ponctuer. À part donc le Jad al-Khadra dont je viens de parler, il y a l'ouverture. L'ouverture du mézé, et après il y a trois tableaux. Et dans ces tableaux et l'ouverture, il y a donc des mets avec des saveurs, des couleurs, des températures très différentes. Donc, pour prendre l'ouverture, elle est fondamentale. L'ouverture, elle est fondamentale parce qu'en fait, son rôle précis est d'aiguiser l'appétit, d'éveiller l'appétit. N'oublions pas que nous sommes dans un repas épicurien qui sort de l'ordinaire des repas familiaux. Et donc, on sait qu'on va rester à table un bon moment, 2-3 heures. C'est le temps qu'on passe en général. Donc, si on passe du temps, 2-3 heures à manger, il faut déjà éveiller l'appétit dans le bien-être, afin que cet appétit puisse perdurer
tout au long du
repas épicurien.
Et animer les conversations qui doivent également être éveillées.
Absolument. Et donc, vous avez cette ouverture dont le but est, comme je viens de dire, d'aiguiser l'appétit, de faire appel à votre appétit. Et donc, que contient cette ouverture? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est frappant dans cette ouverture telle que je l'ai étudiée, c'est d'abord un hymne à la saison dans le sens de Maussam. Moi, j'ai abordé la question de Maussam quand j'ai travaillé sur la Mouni. La Mouni, c'est-à-dire la conservation alimentaire, les différentes techniques et fonctionnalités de la conservation alimentaire.
Peut-être on peut profiter de ce moment juste pour expliquer qu'il y a deux termes pour évoquer les saisons.
Voilà.
Il y a la saison calendaire à laquelle on est habitué, printemps, été, automne, hiver, et il y a donc Maussam qui est la saison du produit.
La saison du produit en particulier issu d'un terroir.
D'un terroir bien particulier.
Bien précis.
Tout à fait.
Donc il y a le fasl, qui est donc la division calendaire
des quatre saisons.
Voilà, géographique, etc. Et il y a le Maussam. Et pour moi, c'est vraiment un terme absolument indispensable pour comprendre cette ouverture et pour comprendre aussi l'essence de la cuisine, l'esprit de la cuisine libanaise.
D'autant qu'un Maussam, il peut y avoir plusieurs Maussam dans un même produit. Vous prenez par exemple l'amande, qui elle-même, pour une petite noix, va avoir 3 ou 4 Maussam en elle-même, parce
Absolument.
Que nous allons avoir la Maussam verte, enfin l'amande verte, l'amande fraîche, donc deux choses différentes. Alors l'amande verte, quelle est-elle?
Alors l'amande verte, c'est, disons, l'amoureuse de l'ouverture. L'amande verte, elle vous accueille, elle vous reçoit à table pendant la saison dans l'ouverture. Et en fait, c'est, vous avez l'amande verte au duvet soyeux que l'on déguste
entièrement,
avec un tout petit peu, on la croque déjà, c'est-à-dire en la croquant, on va mettre un tout petit peu de sel sur le milieu, on la voit, elle est belle, vous voyez, on voit les couches quand on croque, on voit les couches, il y a la peau, et puis il y a le corps de l'amande, et il y a après la graine qui est, quand elle est verte, c'est de l'eau.
Oui,
donc incroyable. Vous mettez un peu de sel et vous la dégustez. Et ainsi de suite, dans le sens où vous allez avoir une variété de prunes vertes qu'on appelle janeri, qu'on mange acidulée. Et donc, pour revenir à la question des saveurs de l'ouverture, je me répète, l'ouverture a comme but d'aiguiser l'appétit, elle axe sur la saveur acidulée. Et au Liban, dans la culture culinaire libanaise, l'acidulé, c'est son rôle et d'aiguiser l'appétit. Et par exemple, une femme enceinte qui refuse parfois certains aliments, elle va être attirée par cette saveur qui donc va trôner sur la table de l'ouverture. Mais pas que l'acidulé, il y a d'autres choses. Il y a les fèves vertes en saison qui vont apparaître. Il y a les petits pois, il y a plein d'autres de produits de terroir qui apparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette table d'ouverture du mésé, elle vient sans que vous la demandiez. C'est-à-dire, elle est offerte. Et cette offrande, elle est hautement symbolique parce que c'est tout de suite, si vous voulez, le lien entre les cuisiniers que l'on ne voit pas derrière leur fourneau et les convives qui va commencer à se développer.
Je vous propose de suivre un petit peu, d'aller visiter les souvenirs d'une autre Libanaise auteure qui s'appelle André Malouf, qui elle nous parle de la saison d'un vrai bouquet de pois chiches verts cueillis dans son enfance.
Quand nous étions petits au Liban et qu'on allait en promenade d'une ville à une autre sur le bord de mer, il y avait sur toute la route des vendeurs de pois chiches qui vous offraient un bouquet de pois chiches verts et qu'on mangeait verts. Et c'était un délice absolu. On avait arraché les plants de pois chiches au moment de la cueillette. Ils étaient verts, ils étaient juteux et verts. La peau extérieure est légèrement acidulée. Il y a comme une sorte de mousse dessus, comme une sorte de petit poil acide. Et donc, on cassait cette petite coque et on mangeait le pois chiche vert dedans. Et ça, c'est des souvenirs d'enfance inoubliables que nous avons tous partagés, tous ceux qui ont vécu ces moments-là. Je pense qu'aujourd'hui encore, si vous êtes au Liban, au moment de la cueillette des pois chiches, ou avant la cueillette du pois chiche, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop cuit, vous trouverez des vendeurs de pois chiches verts le long des routes. Il faut absolument que vous goûtiez cela.
Pois chiches verts, donc, souvenir d'André Malouf. Est-ce que c'est un souvenir qui en appelle d'autres chez vous, du coup? Est-ce qu'on peut déjà trouver ce pois chiche vert sur une table d'ouverture?
On peut, et on va les égrener comme une égrène un chapelet. Et c'est pareil aussi pour les fèves vertes. Et je dirais que les pois chiches verts et les fèves vertes, elles ont cette caractéristique d'avoir une texture extraordinaire et des saveurs extraordinaires. Si on prend donc le pois chiche vert, déjà son nom. Le pois chiche vert, c'est M. Laibeni. M. Laibeni, ça veut dire c'est la mère du petit cœur. C'est très poétique.
C'est très poétique.
C'est très poétique. Donc, effectivement, quand vous égrenez ces pois chiches, on avait l'habitude de mettre la cosse, toute la cosse dans la bouche. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette saveur acidulée qui va quelque part contraster avec le cœur dont je parlais tout à l'heure. Laibeni, la mère du petit cœur. Le petit cœur, il est à l'intérieur. Vous le découvrez en enlevant cette cosse. Et donc, vous trouvez ce petit cœur du pois chiche, un cœur exquis, suave, d'une tendresse remarquable.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
حد القناطر محبوب ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا بطل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن أيام عالبال بتعن وتروح تحت الرمان حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا
قلبي يا قلبي انت عينيا
El Bint El Shaabia, c'est Feyrou sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez le goût du monde, prenez place, c'est le grand mézé aujourd'hui, le grand partage, un spectacle que nous compte et nous décrypte notre invité, Aïda Kanafanizar, anthropologue et auteur chez Actes Sud du livre magique, le grand livre du mézé libanais. Nous avons savouré toute la fraîcheur acidulée de cette ouverture, chère Aïda, mais c'est vous surtout qui avez choisi cette chanson de Feyrou, est-ce que vous pourriez m'expliquer votre choix?
Oui, parce que d'abord son rythme. Et suggère la gaieté, la joie de vivre. Et en fait, la table du repas épicurien et du mézé, c'est bien cela. C'est du panache, c'est de la gaieté, c'est la joie de partager, pas seulement la nourriture, mais partager la parole, partager aussi les affinités, partager les humeurs. Donc, d'une part, ce rythme gai qui vous met en bonne humeur. Et comme je viens de dire, le but du repas épicurien, à la fin, c'est vraiment votre bien-être. Et la deuxième raison, c'est Bint El Shaabia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la belle femme et la femme élégante aux yeux d'amande.
Bien voilà. Et c'est le Mossam de la femme élégante aux yeux d'amande, le Mossam étant la saison. On parlait de cette saveur acidulée dans l'ouverture. Alors là, on entre dans le deuxième temps de ce mézé, qui est donc un temps divisé en trois actes, qui est donc le mézé à proprement parler. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce premier temps qui est le règne du végétal?
Oui. Alors, le premier temps, donc, c'est le temps, disons, le palier du mézé. Donc, je l'ai découpé pour des raisons analytiques, donc en ouverture et en trois tableaux. Et le terme tableau, je l'ai pris exprès parce que en effet ce sont des peintures, ce sont des couleurs qui parlent, ce sont des couleurs qui, j'ai envie de dire, sentent. Et donc le après l'ouverture qui était le règne de l'acidulé et du végétal et du salé
et du salé, salé avec
parce
les
que nous avons les aussi
noix,
les cacahuètes, les lupins salés, les carottes salées, etc. vient le temps donc après du premier tableau. Le premier tableau, c'est véritablement le règne du végétal. Et on met l'accent plutôt sur, aussi, si on reste dans le domaine du Mossam, comme je viens de dire, les herbes sauvages vont avoir une place très importante, tout comme des plats très particuliers et très communs, très adorés, très quotidiens presque, par exemple, le taboulé, à base de persil, le taboulé, et après nous avons aussi la sœur du taboulé qui est le fatouche. C'est tout à fait une autre préparation, même si on reste quelque part dans un végétal sophistiqué.
Dans une salade en fait, fraîche.
Oui, voilà, avec des saveurs complètement différentes. C'est pour cela, sur la même table, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Vous voyez, taboulé et fatouche sont là tous les deux, leur façon d'être préparée, leur façon d'être coupée. L'assaisonnement est très différent.
En fait, je m'amuse parce que j'ai pris des notes, évidemment, en découvrant ce mézé. Et ça fait d'une liste, on dirait une liste à la Prévert, où on a les herbes sauvages, les oignons, les citrons, les tahinés, les caviars d'aubergine. On a toute une mélopée comme ça, une chanson, en fait. Mais c'est d'une richesse incroyable. Et tout ça, c'est pensé. Et ça change au gré des saisons.
Oui, c'est-à-dire... Ces pensées, ça changerait au gré des saisons. Là, s'il y a les herbes sauvages, c'est dans la saison de ces herbes, disons printemps, fin de l'hiver, début du printemps. Et dans ce premier tableau, il y a un élément tout aussi indispensable, tout aussi quotidien, tout aussi aimé, c'est le hummus. Ah. C'est le hummus. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que on se dirige vers les restaurants spécialisés pour partager un mézé. On ne peut pas se passer des mets les plus quotidiens, ceux qu'on prise le plus. Donc le hummus avec sa panoplie, il y a le hummus bataïné, donc la purée. Mais après, vous avez toute une panoplie de hummus préparé avec des graines et des saveurs différentes. Et après, quand nous passons au deuxième tableau...
Mais vous avez un houmous, justement, qui vous permet de passer au deuxième tableau.
Oui, absolument.
C'est le houmous,
voilà,
qui a donc
qui a la viande,
qui est carné et qui a donc ces on va dire ces miettes de viande de mouton, de viande hachée
et de pignons
sur le dessus.
Et de pignons, les pignons, tout comme les amandes dont on a parlé quand elles deviennent mûres, ce sont les joyaux de la table. S'il n'y a pas une table, qu'elle soit quotidienne chez nous à la maison ou au restaurant, ce sont vraiment les joyaux scintillants de toute préparation. Et donc, oui, le hummus carné, il va faire le lien avec le deuxième tableau. Et après le deuxième tableau, vous allez avoir les pâtes avec de la viande. Donc, vous avez la rencontre du carné avec la céréale. Et donc, vous avez aussi toute une panoplie de mets, de mokabbilat. Mokabbilat, ce sont donc tous ces raviers qui viennent, qui descendent. Et finalement, le troisième tableau, c'est véritablement le règne du carné, dans toute sa splendeur. Le carné, et vous voyez, le carné vient en dernier. Et c'est très difficile d'imaginer un mésé dont le premier tableau commence avec du carné.
D'ailleurs, c'est très dans la dénomination que vous faites de ces trois différents tableaux. J'aime beaucoup le nom du deuxième tableau qui est le carné annoncé. Donc, on le sent pointer du nez, mais il n'est pas vraiment là.
Absolument.
Et ensuite, on a le carné qui est complètement incarné pour le coup. Juste qu'on revienne deux secondes sur cette notion de carné annoncé, avec notamment la kébé. Alors, une première kébé. Alors, évidemment, on parlait de la kébé, qui est donc... comment vous décririez la kébé?
Je dirais que c'est un patrimoine.
Voilà.
C'est vraiment un patrimoine, et le terme n'est pas abusif.
Oui.
C'est un véritable patrimoine culinaire de la culture libanaise, et il est à cheval, en fait, sur les trois tableaux.
Il
y a même le kébé végétal,
oui,
du premier tableau. C'est-à-dire, vous avez le bourgoule. Le bourgoule, et d'ailleurs, le bourgoule s'appelle bourgoule le kébé. C'est-à-dire, c'est le bourgoule qui est vraiment la chose du kébé. Et donc, vous avez des kébés végétariens à la lentille ou à la tomate. Et vous avez aussi, après, donc, des kébés avec le potiron. Et vous avez, après, le deuxième, troisième palier, vous avez la kébé qu'on appelle kébé mêlée, c'est-à-dire la kébé frite. Et après, vous avez le kébé cru. Le kébé cru, qui s'échelonne entre du kébé qui s'appelle kébé cru, une préparation lustrée. Et à
donc
base
de viande et de boulgour.
Et des boulgour.
Associés et mariés.
Voilà, avec des épices, nécessairement des épices précises. Et il y a la fraque aussi, qui est tout à fait d'une autre texture et d'une autre saveur que le kébénaillé. Et donc, au troisième palier, vous avez les abats. Les abats, certains sont consommés crus, cuits, et cuits de différentes façons. Ils peuvent être grillés, bouillis à l'eau, mais aussi certains sont consommés crus, comme la kébénaillée, comme par exemple le plus typique d'un abat consommé cru, c'est le foie de mouton. Donc là, quand on parle d'abat, on reste dans le mouton. Voilà.
J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu, parce que du coup, ce boulgour mélangé à la viande, associé à la viande, c'est tout un savoir-faire également.
C'est tout un savoir-faire qui a commencé par l'usage d'un instrument, d'un outil extrêmement essentiel et emblématique. Qui est le jurnel kébé, c'est-à-dire le jurne, c'est le mortier.
C'est le mortier.
Dans lequel, traditionnellement, dans le passé, on pilait la viande. On l'appelle jurne, le kébé, tout comme on appelle le bourgoule fin. Le bourgoule du kébé est un bourgoule fin, comme on appelle le bourgoule fin Burhol
el-Kebbi. Alors je vous propose, je vais lire un petit passage de votre livre justement sur le battage dans le Jorun.
Dans le jeûne.
Donc ce mortier qui créait une micro-scène dans la cuisine ou sur la terrasse qui s'enveloppait d'un bouquet d'arômes, oignons écrasés, piment de Jamaïque, cannelle, herbes aromatiques, basilic, menthe, marjolaine, piment rose, dont celui du levain provenant de la graine mouillée du boulhour. Les enfants se rassemblaient tant pour la scène que revêtait un aspect ludique que pour réclamer des morceaux de kebbeh. En outre, le spectacle sonore suscitait bonne humeur et jovialité. La rythmique qui s'installait était propice à l'accompagnement de la voix et des ritournelles. Évoquant le pillage, une villageoise dit immédiatement « c'était comme de la musique ». Je vous propose justement d'écouter une autre musique qui n'est pas celle de Jorun, mais qui est aussi une musique libanaise de préparation d'une viande. Alors ça, c'est la musique incroyable d'un couteau de boucher qui prépare une viande qui se fait à Baalbek. Donc on fait une sfiha.
C'est une spécialité de Baalbek. Et la sfiha, donc, c'est une pâte étalée et sur laquelle on pose donc de la viande hachée. On vient d'entendre la cadence du hachage. Et Baalbek est vraiment connu pour sa sfiha.
En fait, c'est une musique, le mezé aussi, c'est une musique. Tous les ingrédients, toute la composition, tout ce qui amène à créer comme un opéra en réalité, Aïda Kanajanizar.
Oui, un opéra, un théâtre, avec une scène, avec des acteurs et un déroulement.
Un déroulement,
c'est-à-dire une séquence temporelle qui reste très fluide.
Parce que ce qui est incroyable quand on entend les femmes, quand on voit et qu'on entend le battement, les caressages, comment on façonne le pain, comment on façonne les kebabs, toute cette viande, comment c'est fait, c'est vraiment... Est-ce que cet aspect sonore, quand vous rencontriez, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué également?
Oui, absolument.
Ou c'est une déformation professionnelle?
Non, bien sûr. Ben déjà, le kebab est assez particulier dans cette dimension. Le kebbeh et aussi la fraque. La fraque utilise une autre sorte de mortier plat. Parce que les jeûnes, il faut savoir, donc, c'est un mortier carré dont la cavité est ronde et qui est assez profonde, dans lequel on va poser la viande et après le bourgoul et les condiments, etc. Et on a aussi la blata. La blata, c'est une sorte de mortier plat. Plat très lisse qui est utilisé dans la région du sud. Là aussi, vous voyez, vous avez des spécificités régionales en termes de technique. Et donc là, par contre, le son, alors disons que le son qui est dégagé par le jeûne est un son feutré, sourd et de cavité. On entend le slurp.
De la viande qui se détache, que
tire le pilon. Et alors, par rapport à la blata, qui est une surface plane et lisse, vous avez un cliquetis avec effet de claquette.
تذكري لما قلتي لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنت بلا كرافات وصبحية لما
سيتيني ومش طيل شعر وبعتيني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني مسكتيلي ايدي وعتيني باشي طورة كيف نسيتي كيف نسيتيني
Fassatine, Mashrou, Leïla sur RFI, vous écoutez le goût du monde. Nous sommes aujourd'hui, nous goûtons en fait le repas qu'est le Medzé, un spectacle en soi, une ode à la terre et aux saisons que compte notre invitée Aïda Kanafanizar, anthropologue et poète. Dans le récit qu'elle fait dans ce livre incroyable, publié chez Actes Sud. On était évidemment avec ce mortier et ces bruits et ces sons de cette cuisine libanaise identitaire. Il y a un aspect des mezés et de la gastronomie libanaise qui est fondamentale, dont vous avez fait un livre notamment, qui s'appelle « Le mouton et le mûrier ». C'est un mouton à queue grasse. Est-ce que vous pourriez nous parler des saveurs de cette liée et de ce dîne, je crois ?
Alors, le travail que j'avais fait, c'était un travail que les femmes qui ont pratiqué une forme de domestication disparue, qui était le gavage du mouton, pour justement confectionner et préparer l'hiver dans de bonnes conditions nutritionnelles. Et donc, le gras de la queue, donc dans le passé, on gavait les moutons à queue grasse. C'est donc une race de moutons particulière à cette région du Moyen-Orient, qu'on appelle Aways, Awasi. Et donc, c'est le réservoir, en fait. C'est le réservoir du confit. On va confire la viande du mouton, qu'on va donc préalablement gaver pendant des mois, dans cette queue. Et donc, moi, mon récit dans le livre du mouton et du mûrier, ce sont les femmes qui ont gavé dans le passé, qui ont donné vie à ce travail. C'est vraiment à partir des récits, parce que ce n'était plus possible d'observer en tant qu'anthropologue la pratique elle-même, puisqu'elle était disparue. Donc aujourd'hui, on prépare le confit. Le confit, c'est quoi ? C'est comme pour le confit de canard. Donc, ça s'appelle donc awarma. Et donc, comme je viens de dire, c'est les réserves de l'hiver, les réserves carnées de l'hiver, d'un hiver en particulier. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer au-delà d'une saison d'hiver, on va dire. Et cette liée, elle est très prisée. Pour sa saveur, d'abord. Sa texture est quand même extraordinaire. Elle ressemble à l'extérieur d'un nuage. Elle est de couleur blanche un peu écrue, un peu jaunâtre, selon ce qu'on va donner quand même au mouton
comme
alimentation. Mm-hmm. Et même aujourd'hui, quand on ne gave plus, aujourd'hui ça fait des années, on ne gave plus les moutons. La kawarma, la awarma, on l'utilise, on la fait toujours à partir de moutons
de cette race
engraissés et qui sont élevés de manière ordinaire. Donc, cette liée a la valeur aujourd'hui de parfum. C'est le terme que les femmes utilisent et que les hommes utilisent, que les consommateurs utilisent. C'est à la valeur de parfum d'otib. C'est-à-dire qu'on met un tout petit peu dans les plats pour relever et donner du parfum. C'est comme presque une épice. À la valeur d'une épice, cette liée. Et on la mange aussi. Elle est certainement cuite, grillée. On l'aime beaucoup grillée au Liban. Par exemple, on a évoqué tout à l'heure les abats avec le foie grillé ou même le foie cru. On va manger des petits bouts de liée crue ou grillée quand le foie est grillé. Ce qui est important, donc, ce sont... Peut-être je mettrai ici une parenthèse par rapport à la kawarma, qui est un produit donc intemporel, puisque à l'origine, c'est pour arrêter un peu le temps et confectionner les réserves de l'hiver. Aujourd'hui, sur la table libanaise, les produits de la table paysanne, ce sont pour moi de véritables trésors, des merveilles somptueuses de la culture paysanne qui reviennent depuis quelques années à la table non seulement des villages, mais aussi à la table des maisées des citadins.
Qu'est-ce qui explique justement ce retour et cette envie pour les Libanais aujourd'hui, comme de retrouver leurs racines en réalité, comme leurs racines authentiques?
C'est moi, j'ai
un peu de leur âme.
Je pense que à la fin de la guerre, vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile d'aborder n'importe quel sujet, et donc l'alimentation, sans se référer à la guerre. Et à la sortie de la guerre en 90, il y a eu ce besoin d'un sentiment fédérateur. Vous savez, il y a eu la guerre du Liban de 75-90. Elle a pris des dimensions civiles. Elle a eu des dimensions civiles. Donc les Libanais, dans l'alimentation et dans la table qu'on partage, je pense qu'ils ont véritablement ressenti ce besoin. Preuve en est que entre la fin de la guerre et aujourd'hui, les restaurants qui se sont spécialisés dans la cuisine libanaise se sont multipliés à vue d'œil. Et donc, on a vu un retour aux cuisines que j'évoquais tout à l'heure, aux cuisines des mamans, des grands-mamans et aux cuisines de terroir. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui des plats qu'on ne pouvait pas imaginer il y a plusieurs années, disons avant la guerre, qui allaient se trouver sur la table du mésé, du repas épicurien, comme plat principal dans le deuxième palier. C'est-à-dire les tripous. Et aujourd'hui, vous avez des restaurants qui donc revisitent, reconceptualisent la cuisine et en essayant effectivement de faire le pont entre le village et la ville. Et en fait, moi j'aimerais bien dire que certes, c'est très important de présenter les produits du terroir de l'intérieur des terres paysans. Il faudrait quand même que ça soit complété par une connaissance, une reconnaissance de la culture paysanne dans sa culture matérielle et idéale complexe.
Regard, vous parlez du souffle et vous parlez de l'âme. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été justement, pour vous en tout cas, l'âme, le souffle et votre regard?
Alors, on dit au Liban que la cuisine est affaire de regard. Et c'est pour moi, en fait, le regard, c'est quand on prépare un mets et quand on dit à quelqu'un, tu peux me donner la recette, on dit c'est une affaire de regard. C'est la transmission. Et la transmission se fait certes par le regard, mais aussi elle se fait par tous les autres sens. Et la cuisine est une affaire de souffle. On dit au Liban, c'est si vous voulez une expression qui m'avait beaucoup interpellée au quotidien, que quelqu'un a un bon souffle sur la nourriture. Et j'ai voulu creuser un peu cette question, un bon souffle. Nafasu tayyib al akl. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en fait, cuisiner avec tout son cœur. C'est-à-dire, donner et abandonner ses connaissances culinaires en donnant à manger à l'autre. Et en fait, pour moi, les cuisiniers, les cuisinières, et pour moi, un cuisinier, c'est tout simplement toute personne qui se met devant des produits et devant son fourneau. Voilà pour moi le cuisinier. Et le cuisinier, c'est un souffleur de verre. C'est-à-dire, quand son souffle est bon sur la nourriture, c'est-à-dire qu'il souffle le matériel pour créer l'œuvre culinaire. Ça, c'est le nafas. Et le nafs, c'est lié vraiment au terme lui-même de hors d'œuvre du mézé. C'est le mukabbilat. Mukabbilat, le nafs, c'est vraiment l'âme. Il s'agit de séduire l'âme du mangeur pour que justement, comme on a dit au tout début, pour que ce repas qui va durer sur quelques temps se passe dans le bien-être et dans une forme de bonheur.
Et d'amour. Quand même, on va devoir trancher juste avec une question qui semble d'une platitude totale. On a parlé évidemment d'un ustensile au long de cette émission, qui est donc ce mortier que vous avez choisi pour piler la viande et l'assembler au boulhour. Et quel est votre ingrédient ?
Alors, l'ingrédient pour moi, c'est le piment jamaïque. Le piment jamaïque, c'est donc l'épice reine, l'épice mère de la cuisine libanaise. Elle est peu connue en France. C'est ce que le Britannique appelle allspice. Et dans la cuisine libanaise, il y a assez peu de plats qui ne contiennent pas du piment jamaïque. Sa richesse vient du fait que son odeur, le piment jamaïque, il ressemble, c'est une baie très douce, contrairement à ce que son nom peut suggérer, très douce et qui rentre dans la grande majorité des plats pour les parfumer. Et donc, parce que sa richesse, sa complexité aromatique vient du fait qu'elle associe cannelle, girofle, poivre noir et muscade. Donc, en une seule épice, vous avez cette richesse extraordinaire. C'est pour cela les Libanais, ils n'ont pas eu besoin d'autre chose. Et comme le dit un cuisinier, il dit, il est essentiel de tout. Et si vous n'avez rien d'autre, il suffit.
Eh bien voilà, chère Aïda, il nous faudra vous revoir. Parce que nous n'avons pas vu le dessert, nous n'avons pas vu le café, nous n'avons pas même pas vu ce deuxième plat principal. Vous reviendrez ?
Volontiers, avec plaisir.
Bon, je vous remercie vraiment.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Aïda pour cet échange et ce voyage incroyablement savoureux. Le grand livre du Mézé, Anthropologie d'un savoir séculaire, est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad. Je conseille vivement les lectures de Mounet et du Mouton et du Mûrier, deux de vos précédents livres. Merci beaucoup à Cécile Bonici, la réalisatrice du Goût du Monde. Et si vous nous disiez sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 ou bien sur les réseaux sociaux, sur la page du Goût du Monde, quel plat serait l'incontournable mezzé de votre pays, de votre culture ? Quelle table pour partage ? Une table de fête et d'ouverture pour tous, en tout cas j'espère, chaleureuse et aimante. Lumineuse fête à vous tous. Nous serons là au rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez compter sur nous.